présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Celle qui attend. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CDRP. Louis XVIII revenu de l'île avec le drapeau blanc dans les fourgons de l'ennemi. Octroie en 1814 la charte constitutionnelle. Deux chambres sur le modèle britannique. Pair héréditaire et chambre des députés élus au suffrage censitaire. Initiative des lois réservées à l'exécutif exercée par des ministres responsables devant le roi. Les ventes des biens nationaux, l'égalité des droits, code civil et des libertés bourgeoises sont confirmées. L'évolution de la situation en France, mécontentement des demi-soldes, excède la terreur blanche, incite Napoléon à rentrer en France. Ce sont les 100 jours.
Quelle ville étrange, belle, majestueuse.
Mais le roi mystère va sortir des catacombes.
Puis, c'est la terreur blanche.
Messieurs,
Jacobins contre les Jacobins et Bonapartistes.
Mettre baïonnette au canon.
Élection de la Chambre, introuvable, dissoute en 1816. Épuration, 70 000 arrestations. Exécution de généraux napoléoniens.
Prenez position, bloquez les carrefours. À vos ordres. En avant.
une berline sillonne les vignobles de Pénard-Vergenès, en Bourgogne. Elle emmène Émilien Bergenès chez son oncle. Il fait particulièrement beau et chaud. La route est poussiéreuse, les vignes et les arbres sont verdoyants. Émilien regarde le paysage ébloui par cette nature si belle et calme. Il a chaud et cette chaleur lui fait du bien. Il se sent calme et heureux. Paris qu'il vient de quitter, bouillonnant et hostile, plein de policiers et de délateurs. Parce qu'il était un temps capitaine dans l'armée de Napoléon, on le menaçait et le regardait d'un drôle d'air. Alors, il a décidé d'aller vivre chez son oncle en province. Sa redingote noire et son pantalon blanc sont poussiéreux, des cheveux épais noirs et sa moustache aussi. Il a belle allure, plutôt grand, fort, pas gros, des yeux bleus profonds, vifs, il porte bien ses 35 ans. Célibataire, vivant de petites rentes avec une solde, il serait tranquille, mais Napoléon en est digne, l'épuration, l'avenir est devenu incertain. Enfin, la berline arrive. Elle va s'arrêter devant l'entrée du château des Bergenès. Une petite demeure du XVIIe siècle entourée d'arbres et d'une grande pelouse sur le devant et avec un bassin. Émilien est descendu de berline un peu courbaturé. Son oncle descend les marches du perron, les bras tendus. D'un petit homme gros, chauve, l'air jovial. Il porte des lunettes et une redingote verte, bouteille et un pantalon noir. Bonjour mon oncle.
Bonjour Émilien.
Ils s'embrassent.
As-tu fait bon voyage ?
Oui, je suis heureux de retrouver un peu de calme. L'oncle prend à l'épaule et lui dit
« Alors viens, je vais te montrer ta chambre. »
Et il le conduit à l'intérieur de la maison. Pendant que les domestiques prennent les bagages, la fraîcheur et l'ombre surprend Émilien. Hall d'entrée avec grand escalier de pierre. L'intérieur du château est beau mais sobre, pas de fleurissures et les meubles sont Louis XIV. En montant jusqu'au deuxième étage où se trouvent les chambres,
tu te souviens où se trouve ta chambre ?
Oui, bien sûr.
Pourtant cela fait longtemps que tu n'es pas venu.
Eh oui, j'avais beaucoup à faire.
La dernière fois c'était juste avant la mort de ta mère.
Ils sont arrivés. Au deuxième étage, longe un long couloir sombre. L'oncle ouvre l'avant-dernière porte.
C'est ici.
Et ils entrent. La pièce est grande, vaste, meublée Louis XIII. Les meubles sont en chêne sombre et robuste. Un grand lit, une armoire, une table basse, un secrétaire, une chaise dans un coin, un paravent qui cache le coin toilette. Les murs sont en tapisserie, tapissés à fleurs vieille automne. Le sol est en carreaux rouille.
Tu te reconnais ?
Oui, mon oncle. Il est ému de revoir tout ça. Toute sa jeunesse revient. L'été à courir dans les bois, les vendanges, la chasse, sa mère, son père. Toute une époque, mais une époque très courte et entrecoupée de révolutions, guerres, morts, exil. Je vais te laisser pour te mettre à l'aise. Tes bagages arrivent. Merci, mon oncle. L'oncle sort. Les domestiques apportent les bagages. Deux heures plus tard, ils sont assis dans la salle à manger. La pièce est sombre. On a fermé à demi les doubles rideaux à cause de la chaleur. Il est 14 heures et prennent une petite collation de vin, gâteau au raisin. Émilien s'est changé et est habillé d'un pantalon et d'une redingote blanche. Cela la rajeunit. L'oncle lui dit « J'espère que tu ne vas pas t'ennuyer ici. Il n'y a pas grand-chose à faire. » Les jours s'écoulent, calmes et tranquilles. Il fait de longues marches avec ou sans son oncle. Un jour, à la sortie d'une forêt, il tombe devant l'entrée d'un parc. Le portail est fermé. Un mur haut entoure la propriété. Émilien s'est approché et entre la grille rouillée du portail regarde. Fond du parc, il y a une immense pelouse entourée d'arbres. Au milieu de cette pelouse se trouve la statue d'un faune et plus loin une demeure du XVIIe siècle avec de grandes baies vitrées et une terrasse. Malgré le côté joli, charmant du domaine, cela donne une certaine sensation étrange, angoissante, et l'on ne sait que l'on ne sait pas pourquoi. Émilien l'a ressenti et se demande à son oncle qui est à côté de lui, à qui appartient-il?
À Aude Passentière, ou plutôt à Jeanne de Passentière. Elle vit seule depuis la mort des siens. Elle ne veut voir plus personne. Allons, rentrons.
Et il s'en retourne. Tout en marchant, Émilien demande « Est-elle vieille ?»«
Non, dans les 25 ans. Mais on l'a dit folle. Une histoire d'amour du temps de sa jeunesse lui aurait fait perdre la tête. Je ne peux rien te dire de plus. Je ne la connais pas. »
De retour dans sa chambre, Émilien, sans savoir pourquoi, pense à ce parc et à la femme vivant recluse. Il se dit que c'est sûrement l'ennui qui lui fait penser à cette femme. Et puis, c'est ridicule. Elle est certainement laide et folle. Il s'allonge sur le lit, et essaye de penser à autre chose. Les jours passent et durant ses promenades, seul, il va souvent, malgré lui, devant l'entrée du parc. Après le dîner, ils sont tous deux assis sur la terrasse. L'air est chaud, le ciel est constellé d'étoiles. L'oncle dit :
Il faut un temps que je recevais beaucoup. La noblesse des environs se voyait souvent. Il pesantière, le comte et sa femme étaient des gens charmants. Mais le comte Troultra est sévère.
Et la fille ?
Oh, la fille, elle devait obéir. Et jouait un rôle de soumise, comme toutes les filles de sa race. Mais elle ressentait chez elle une fougue, refoulée de la passion. Pauvre fille.
Que lui est-il arrivé ?
Ce qui lui est arrivé. Elle était très jeune, lorsque l'un de ses copains, bonapartiste, orphelin, a été recueilli par la famille. Cela, bien sûr, ne plaisait pas au père, un bonapartiste, tu penses. Comme la famille, pour lui, c'était sacré. Il arriva que les deux jeunes gens tombèrent amoureux l'un de l'autre. Et oui, malheureusement, les parents surprennent leurs amours. Il y a dispute et même bagarre. Malheureusement, le père est blessé. Le jeune homme se sauve. Se cache de la police. Il a dû changer plusieurs fois de nom. On a perdu sa trace. Elle a été mise au couvent pour éviter un scandale. Malgré les années, elle continue à penser à lui, à l'aimer. Elle a une haine pour le père. Qu'il a dénoncé. Les parents morts. Elle hérite de toute la fortune, mène une vie de recluse et refuse toutes les prétendants. Attend encore le cousin et pense qu'il reviendra la chercher. Ce n'est pas tout. Elle dépense toute sa fortune, payer des détectives pour le retrouver.
C'est une folie amoureuse que vous me dites là. Comment savez-vous tout ça?
Les domestiques qui parlent. Car les jours de tristesse, elle a des crises de démence qui font peur. Ils sont pas pour eux et pour elle. Alors, ils parlent pour se soulager. Ils disent qu'un jour, elle se tuera, mettra le feu au château.
Personne ne peut s'occuper d'elle.
Non. Elle n'a ni famille, ni amis. Rien.
Emilien commence à s'ennuyer. Ses promenades le conduisent toujours vers le domaine. Et ceci malgré lui. La demeure semble inanimée et hostile.
Qu'est-ce qui m'attire ici ? Le besoin d'une compagnie féminine.
apparition d'une demi-folle, invisible, un fantôme d'amour. Un matin, il se lève et se dit « Il faut que ça change, j'étouffe ici, j'ai besoin de société. » Il retrouve son oncle au salon pour prendre le petit déjeuner.
Bonjour mon oncle.
Bonjour Émilien.
Et s'assoit. Il se sert. Et dit.
Mon oncle, j'ai décidé une chose, c'est de faire un petit voyage dans le massif central.
Tu pars quand ?
Si elle ne vous gêne pas, demain matin.
Tu prendras la berline qui est libre.
Non, j'aime mieux partir seul à cheval. De toute façon, je ne prends qu'un sac de voyage.
Bien, comme tu voudras mon petit.
Et le lendemain matin, après avoir petit déjeuner qu'il a pris avec son oncle, sont allés tous deux sur le perron pour se dire au revoir.
Au revoir et bon voyage.
Merci.
Au revoir mon oncle et à bientôt. Montait à cheval et s'est éloigné.
Le ciel est gris, nuageux, menaçant, mais il a voulu partir tout de même.
Après un quart d'heure de route, il décide d'aller voir une dernière fois le château des Pesentières. Arrivé devant le château, il descend de cheval. Il touche le portail qui s'ouvre. Il n'était pas fermé. Hésite. Fait un pas dans la propriété. Puis avance tout doucement. Malgré lui, il est intimidé. Il a l'impression de violer un sanctuaire. Plus il avance, plus le château lui semble grand et menaçant. L'Hermès a l'air ici, immense et menaçant lui aussi. Arrivé près de lui, une des fenêtres du château s'ouvre. Au premier étage, c'est celle qui se trouve à l'extrémité droite. Et tout juste le temps de voir une tache blanche et un coup. Il perd l'équilibre. Noir. Lorsqu'il se réveille, il a des douleurs au bras droit.
et voit blanc. Puis, une flamme jaune. La flamme se retire et voit un bureau, une bibliothèque. Où suis-je? Où suis-je? Chez moi. Chez moi. Chez moi. Et il voit une femme qui semble grande, en robe blanche, les cheveux blonds, poser le chandelier sur le bureau. Elle se tourne vers lui. Elle est merveilleusement belle, élégante, royale. Son collier, ses boucles d'oreilles brillent à la lueur de la flamme. Ses lèvres d'un rouge vif aussi. Il est ébloui par elle comme une apparition. Elle reste debout, raide, le dos au bureau. Vous n'allez pas vous évanouir encore une fois. Vous n'avez qu'une simple égratignure au bras droit. Que voulez-vous? Je n'aime pas les intrus. Oui. C'est moi qui vous ai blessé. Vous ne risquez à rien. Je vise juste. Il essaie de se soulever et dit : Pourquoi ? C'est moi qui pose des questions. Pourquoi êtes-vous entré chez moi ? Je regardais simplement. Le portail était ouvert. Alors je suis entré. Vous êtes comme tous les autres. Vous vouliez me connaître. Eh bien, me voilà ! Dit-elle en levant les bras. Et elle marche nerveusement en parlant. Ça les gêne que je vive en recluse. Ils sont jaloux de ma solitude. Elle s'arrête de marcher. Regarde dans le vague. Solitude. Est-ce de ma faute à moi? Si la seule personne que j'aimais m'a été arrachée. Elle se retourne vers lui. Vous connaissez mon histoire? Bien entendu. Ils vous l'ont dit, ils en font des gorges chaudes et se remet en marche. Bien sûr pour eux, l'amour, la fidélité, ça fait partie des rêves. Elle s'arrête pensive. Personne ne peut comprendre, parce que personne n'a aimé comme j'ai aimé. C'est pour cela qu'on me prend pour une folle. Oui, folle, folle alliée. Elle le regarde et lui dit, voilà, vous m'avez vu. Vous êtes heureux, vous pouvez leur dire que je suis comme je suis. Comment me trouvez-vous? Belle, n'est-ce pas? A-t-elle dit en levant fièrement la tête et en la baissant. Je tiens à rester belle pour son retour. Elle soupire et dit. Je suis lasse et je dois vous laisser. Je suis bonne aussi. Je vous garde le temps de que vous guérissiez. Un domestique vous conduira à votre chambre. Bonne nuit. Elle sort de la pièce.
Deux minutes plus tard... est entré dans la pièce un domestique, un homme tout maigre, habillé à la française. Il s'approche d'Emilien. Monsieur, je vais vous conduire à votre chambre. Il l'aide à se lever et sort de la pièce. Le couloir est sombre et noir. Pour éclairer, le domestique a pris sur une commode un bougeoir. Maintenant, Emilien, il le conduit et ouvre une porte. Ils sont entrés dans une pièce. C'est une chambre Louis XV. Le domestique pose le bougeoir sur la table. Attendez, monsieur, je vais vous aider à vous déshabiller. C'est ce qu'il fait. Emilien, malgré la douleur de la blessure, a bien dormi. Le pansement au bras a tenu. Le lendemain, il est réveillé par des coups à la porte.
Entrez.
C'est le domestique.
Vous avez bien dormi, monsieur?
Oui, je vous remercie. Madame viendra vous voir. Désirez-vous prendre vos petits déjeuners?
Oui, merci.
Café?
Oui.
Et il sort. Après avoir pris son petit déjeuner, il s'est levé et habillé tout seul, puis assis sur une chaise. Il sent sa tête vide et ne veut pas penser. À quoi bon? Il est entre les mains d'une femme d'une grande beauté et plus forte que lui. On a frappé à la porte.
Entrez.
La porte est ouverte et c'est elle, en robe noire d'écuyère, une cravache à la main, toujours aussi majestueuse et belle. Elle s'approche de lui.
Vous êtes levé? Vous allez mieux?
Oui, merci. Laissez-moi voir votre pansement. Elle se penche, se met à genoux et regarde le pansement, le soulève.
Ce ne sera pas grave.
Elle se relève.
Dans une semaine, il n'y restera rien.
Puis va s'asseoir sur une chaise en face de lui. Et lui demande,
pouvez-vous me dire maintenant pourquoi vous êtes venu chez moi?
Rien, je suis venu, j'ai été séduit par votre demeure. Et c'est presque malgré moi que je suis entré.
Je l'avoue que ce n'est pas très poli d'agir ainsi. En temps normal, je ne l'aurais certainement jamais fait, mais là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis rentré.
Alors, vous connaissiez mon histoire?
Je l'avoue que oui, mais c'est pas cela qui m'a fait entrer chez vous.
Je ne vous crois pas. Elle se lève d'un bond. Et tape de sa cravache la table. Et avec, lui caresse sa joue. J'aime pas quand l'on se moque de moi. Et se retourne vers la sortie. Frappe l'air de sa cravache. Quitte la pièce d'un pas décidé.
porte à claquer. Et elle dit, on ira vous chercher pour le déjeuner que vous prendrez avec moi dans la salle à manger. Et ferme la porte. Il reste toute la matinée assis sur la chaise, ne sachant que faire. Puis, l'on frappe à la porte. Entrez. C'est le domestique. Madame vous attend pour le repas. Il suit le domestique qui le mène à la salle à manger. Elle est déjà là, debout, devant la table, en robe bleu clair, une nappe blanche recouvre la table, le couvert est mis pour deux personnes. Monsieur, je vous en prie, mettez-vous en face de moi. Il s'approche. Asseyez-vous. C'est ce qu'il fait, elle aussi. Vous savez qui je suis, pouvez-vous me dire votre nom ?
Émilien de Bergentière. Elle sourit et dit, ah, tiens, c'est vous, je vous croyais à Paris. Je suis venu passer quelque temps ici, Paris est devenu orageux, la terreur blanche. Elle sourit et dit, je comprends, Frédéric aussi a connu ces horreurs, il était obligé de se cacher parce qu'il était bonapartiste. Mon père le détestait lui aussi, à cause de ça. Vous l'avez peut-être connu ? Non, madame. Un domestique les sert. Elle dit songeuse. Oui, bien sûr. Et il était si jeune. Il était beau, vous savez. Malheureusement, mon père nous a surpris. Il a blessé mon père par accident et était obligé de s'enfuir. J'ai fait des recherches, mais impossible de le retrouver. Vous ne pourriez pas ?
Ce serait difficile, madame, surtout à notre époque, où il faut encore se cacher. Elle se lève agacée.
Bien sûr, personne ne veut m'aider. Mais madame, il doit lui aussi se cacher de la terreur blanche.
Elle se rassoit.
Moi, si je pouvais, si j'étais un homme, j'irais jusqu'au bout du monde pour le chercher.
Elle se remplit un verre de vin. Et boit. Elle le regarde et lui dit, « Vous n'êtes qu'un lâche, vous. » Lui, vexé, lui dit, « Qui vous empêche de partir le chercher au lieu de rester ici ?»«
Moi ? Mais comment puis-je partir ? Je sors tôt, le parc. Et puis, il peut revenir. Et si je suis absente, lorsqu'il reviendra, il pourra repartir. Comprenez-vous pourquoi je ne peux pas m'absenter ?»
Elle se lève.
Et dit, je n'ai plus faim. Vous n'avez rien mangé. Vous avez faim, vous ?
Il se lève.
Elle lui dit, vous voyez bien ? Venez.
Et il sort de la salle à manger.
Elle ouvre une porte et ils entrent.
Un petit salon Louis XV. Elle va vers une table basse.
Se trouve une miniature, la prend. Elle lui dit, venez voir. Il s'approche. Et voit sur la miniature un officier très jeune, beau, blond, Elle lui dit, mais surtout en parlant pour elle-même.
C'est lui. Il est beau, n'est-ce pas? Aujourd'hui, cela fait... Je ne sais plus combien de temps qu'il est parti. C'est étrange. Il ne se souvient plus vraiment de son départ. Je suis tombé malade. J'ai perdu la mémoire. Un grand trou noir. Je sais. C'est qu'il est parti. Mais c'est tout. Quand mon père a été blessé par lui, je suis revenu à moi en ayant perdu la mémoire, en sachant juste qu'il était parti. On m'a enfermé dans un couvent et je me sauvais en pensant à lui. Oui, en pensant à lui.
Épuisée, elle va s'asseoir sur une chaise. La tête porte, serrant dans sa main le portrait. Il est ému par cette femme qui souffre et aimerait faire quelque chose pour elle.
Madame, vous ne pouvez pas rester comme cela. Vous devez vivre.
Elle lève la tête et dit,
vivre? Mais comment?
En plaquant contre sa poitrine sa main qui serre le portrait, elle dit,
avec ce poids qui me serre le cœur.
Les larmes coulent sur son visage.
Vous sortir de tout cela, de ses souvenirs, vivre, voir du monde.
Elle lui dit,
mais c'est impossible, je dois l'attendre. Et s'il n'en revenait pas?
Oui.
Et s'il avait sa vie?
Elle soupire et dit,
ça ne se peut pas. Faites comme si, et vivez, aimez, laissez-vous aimer.
Elle secoue la tête. Qui pourrait aimer une folle?
Moi?
Elle le regarde.
Je vous trouve très belle et digne de tous les respects. Après l'épreuve que vous avez eue, vous avez montré une grandeur d'âme exceptionnelle.
Vous vous moquez de moi?
Non, je vous assure. Allez, venez, laissez-vous courtiser.
Je ne vous aime pas.
Vous apprendrez.
Mon corps est pris depuis longtemps.
Vous apprendrez à vous libérer, à choisir ce que votre corps doit aimer. Cela fait des années que vous vivez avec cet amour qui est peut-être mort depuis longtemps. Vous êtes jeune, vous ne devez pas vivre avec le passé. Venez, sortons.
Elle le regarde,
il lui tend la main, elle la prend et se lève.
Et ils sortent de la pièce.
Ils sont dans le parc et marchent en suivant les allées. Il lui dit,
laissez-vous aller, ne pensez à rien, détendez-vous. Vous êtes une femme forte, peut-être trop forte, et vous prenez trop à cœur les sentiments. Vous êtes belle aussi.
Elle lui dit,
je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression de manquer à mes devoirs, de faire une faute en étant avec vous.
Il lui sourit et lui dit,
mais non. Venez. Il lui prend la main et la force à courir avec lui. Puis, il s'arrête et l'embrasse sur la joue. Elle rougit et lui dit, cela fait longtemps que vous n'avez pas été embrassée.
Elle ne lui dit rien.
Il la fait asseoir sur l'herbe, s'assoit à côté. Une heure plus tard, il rentre.
la main dans la main. Puis, est allé dans sa chambre se reposer et se changer. Lorsqu'il est descendu, il ne l'a pas retrouvé. Un domestique lui dit qu'elle est dans sa chambre. Il ne la retrouve que pour le dîner dans la salle à manger, en robe blanche. Il voit qu'elle a le regard dur et nerveux. Avant de s'asseoir, il veut lui prendre la main et l'embrasser. Elle la retire et lui dit « Je ne veux plus de familiarité. Il faut oublier ce qui s'est passé cet après-midi. » Et ils s'assoivent. Ils mangent en silence. Il voit qu'elle tremble de tous ses membres. « Vous n'êtes pas bien ? Je vais très bien. Occupez-vous de ce qui vous regarde. » Après le repas, ils sont chacun dans leur chambre. C'est allongé. Il fait chaud. Un temps lourd, très lourd et orageux. Il a fini par s'endormir, tout habillé, sur son lit. Sommeil, il entend des cris, du bruit. D'un seul coup, il se réveille. Les cris continuent. Alors il se lève d'un coup et sort de la chambre en courant. Dans le couloir, en chemise de nuit blanche, les cheveux défaits, le visage douloureux et en larmes, qui est sur le sol, la tête soulevée et hurle.
Non ! Non !
Non ! Il court vers elle, se penche. Que vous arrive-t-il ? Je ne le reverrai plus. Je l'ai perdu. Mais qui ? Frédéric ? Il la soulève et la traîne. Elle est toute tremblante pour la faire asseoir sur une chaise dans le couloir. Il lui tient la main. Calmez-vous, ce n'est qu'un rêve, un mauvais rêve. Elle continue à sangloter.
C'est pas un rêve.
Il est venu parce qu'il a cru que je n'étais plus fidèle. Il nous a vus. Mais c'est impossible. Il est loin. Non. Non. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il est tout près d'ici. Tout près d'ici. Je me souviens maintenant. Mon père l'a enterré au pied de la statue. C'est moi qui l'avait tué et qui a blessé mon père. Je l'ai tué parce qu'il me trompait avec une de nos servantes. Mon père les pieds. Il n'avait pas confiance en lui. Alors, une nuit, il l'a trouvé avec la servante. Il s'est tellement mis à colère que ça m'a réveillé. Lorsque j'ai compris ce qui s'était passé,
J'ai couru prendre un fusil de chasse. Je suis allé dans le bureau où mon père... Il lui parlait et j'ai tiré sur lui jusqu'à ce qu'il tombe. Puis j'ai tiré sur mon père. Ensuite, j'ai perdu connaissance. Lorsque je suis revenu à moi, mon père m'a dit qu'il l'avait enterré près de la statue. Il m'a dit que je l'avais tué. J'ai cru devenir folle. Je ne voulais pas. Je voulais qu'il soit parti pour de vrai. Je suis tombée malade et j'ai perdu la mémoire. Et ce soir, je l'ai retrouvé. Quand je l'ai revu, il vient se venger. Il veut que je lui reste fidèle. Non, mais c'est faux, puisqu'il est mort. Vous venez de me le dire qu'il est mort. Non. Je l'entends encore. Il vient me chercher. Me tuer. Me tuer. Elle se lève. Où allez-vous? Où vous le voilez? Il vient. N'a pas le temps de la retenir qu'elle descend les escaliers comme une folle. Il lui court après. Elle sort. L'orage est très fort. Il lui court après. Il court. Ils sont trempés. Il court vers la statue. Se retourne et crie en le voyant. Il court vers elle. Elle le voit.
Oh, laissez-moi, Frédéric. Laissez-moi.
Il court vers elle. Elle est près de la statue. Les éclairs illuminent John. Elle le voit. Pousse un cri de terreur. Oh ! Et tombe. Il accourt vers elle. Se penche. La soulève. Elle est ruisselante et inerte, le visage blanc, horrifié. La prend dans ses bras. Éclairée par les éclairs, le bruit du tonnerre l'amène à la maison, ruisselant tous deux. Épilogue. Au petit matin, il a prévenu les domestiques qui logent en dehors du château, dans un pavillon. Elle ne voulait pas les avoir chez elle, et ils n'ont rien entendu. Puis, après avoir fait venir le médecin et les gendarmes pour constater le décès, il est reparti.
Thank you.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Celle qui attend. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement.